Dans le Nouveau Testament, il est clair que Dieu désire que chaque chrétien atteigne une maturité spirituelle. La Bible dit dans Éphésiens, chapitre 4, verset 14, « Alors nous ne serons plus des enfants, mais en professant la vérité avec amour, nous croissons à tout égard en Christ. » La volonté de Dieu pour tout chrétien est que nous grandissions. Dieu désire que nous réalisons ce qu'il a prévu pour notre vie. Il veut que nous atteignions une maturité spirituelle. La question est comment? Comment pouvons-nous aider les chrétiens de notre Église à atteindre une maturité spirituelle? Comment pouvons-nous les faire passer de simples membres de l'Église à des membres adultes, affermis, fidèles, grandissants dans le Seigneur? Je voudrais vous parler de quelques fausses idées et malentendus concernant la croissance spirituelle, et ensuite vous donner des suggestions pour que vous puissiez aider les autres à atteindre une maturité spirituelle. La première fausse idée, c'est de croire que la croissance spirituelle est automatique dès que l'on est de nouveau. Et ça, ce n'est pas vrai. Bien sûr, beaucoup d'églises y croient parce qu'elles n'ont pas d'autres objectifs, d'autres programmes pour aider les gens à croître spirituellement. La vérité, c'est que la croissance spirituelle est volontaire. Ça n'arrive pas par hasard. On grandit lorsqu'on prend le temps et on s'en donne la peine, on fait l'effort et on prend la décision de grandir et de mûrir. Une personne doit vouloir grandir, une personne doit décider de grandir et une personne doit faire l'effort de grandir. Ni maturité, ni croissance sont automatiques. La Bible dit dans Hébreux 5, verset 12, « Vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne à vous les premiers éléments du message de Dieu depuis le début. » La Bible dit dans Philippiens, chapitre 2, « Continuez de travailler à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Notez que dans ce verset, il est dit « Travaillez à votre salut ». Il n'est pas dit « Travaillez pour votre salut » parce que vous ne travaillez pas pour cela. Il suffit d'agir en conséquence après être devenu croyant. Mais après, il est dit que Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Remarquez que vous devez faire votre part et que Dieu doit faire sa part. Dans votre croissance spirituelle, Dieu a un rôle et vous avez un rôle. Vous vous occupez des détails. Dieu remplit votre vie entière de sa puissance. Devenir un chrétien ayant une maturité spirituelle, c'est le résultat des engagements que nous prenons. Et la croissance spirituelle commence par un engagement, tel qu'il est décrit dans Romains 6, verset 13, où il est dit « Donnez-vous vous-même à Dieu, tout entier à son service ». La croissance n'est pas automatique, c'est le résultat de nos engagements. La deuxième fausse idée, c'est de croire que la croissance spirituelle est mystique, que seulement peu de personnes peuvent atteindre, que c'est très difficile d'y parvenir et qu'elle n'est pas concrète. Bon, beaucoup de croyants croient cela. Ils se disent « Je ne parviendrai jamais à devenir un chrétien adulte ». Ils pensent que cela n'est réservé qu'aux anciens, qu'aux pasteurs, qu'aux gens mystiques, qu'aux moines, qu'aux martyrs, les super saints. Mais la vérité, c'est que la croissance spirituelle est très concrète. Tout croyant peut atteindre une maturité spirituelle si il ou elle a la volonté de développer les habitudes nécessaires. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4, « Prenez le temps et faites l'effort de vous exercer à la piété. » Tout comme vous devez prendre le temps et faire l'effort de garder une bonne forme physique, vous devez prendre le temps et faire l'effort de rester en forme spirituellement. Et si vous développez certaines habitudes, vous allez grandir vers une maturité spirituelle. La troisième fausse idée, c'est de croire que la maturité spirituelle s'obtient instantanément, et si vous possédez la bonne clé. Et j'ai remarqué en voyageant autour du monde que beaucoup de chrétiens recherchent cette clé secrète, cette pilule miracle, cette expérience unique qui va les transformer instantanément. Ils deviendront adultes, ils n'auront plus jamais de problème, ils ne commettront plus aucun péché, ils ne seront plus jamais tentés, ils recherchent une expérience et ils espèrent la trouver dans un livre, dans un séminaire ou dans une conférence, ils veulent quelque chose qui les change du jour au lendemain. Mais la vérité, c'est que ça ne se passe pas comme ça. La croissance spirituelle est un processus, et ce processus prend du temps. La maturité spirituelle instantanée n'existe pas. C'est un processus lent, et il faut toute une vie pour devenir spirituellement adulte. J'ai passé ces 25 dernières années à étudier les éléments nécessaires à la croissance spirituelle. Et j'ai découvert ce dont on a besoin pour grandir, et je vais partager cela avec vous, mais je ne peux pas vous dire que cela se fait rapidement. En effet, ça prend du temps. La quatrième fausse idée, c'est de croire que la maturité spirituelle se mesure en fonction de nos connaissances. Mais ça demande plus que des connaissances. Beaucoup d'églises pensent que tout ce que vous devez faire, c'est de connaître la Bible pour être spirituellement adulte. Si vous pouvez nommer les livres de la Bible, si vous pouvez parler des différents personnages de la Bible, si vous pouvez débattre des versets et de la doctrine de la Bible, et si vous pouvez citer des passages bibliques, alors vous êtes un chrétien adulte. Mais en fait, la maturité spirituelle se révèle davantage par comportement que par les croyances. La maturité spirituelle se révèle davantage par vos actions que par vos connaissances. La Bible dit que l'on peut atteindre une maturité spirituelle, c'est un processus, et on continue de grandir avec le temps. Et alors que nous grandissons, nous faisons différentes sortes d'expériences. La vie chrétienne, c'est bien plus que des connaissances intellectuelles. Ce n'est pas seulement un credo, c'est notre caractère. Ce n'est pas seulement des croyances et une doctrine, c'est notre comportement. La Bible dit de mettre la parole de Dieu en pratique et de ne pas nous borner à l'écouter. Jacques nous dit « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Éphésiens 5:8 dit « Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur Jésus. Marchez comme des enfants de lumière. Ce n'est pas ce que vous savez. » Mais comment vous agissez? Jésus était le plus direct. Dans Matthieu chapitre 7, verset 16, il dit « Vous les connaîtrez à leurs fruits. » Il faut donc plus que la connaissance de la Bible pour nous guider à grandir. Cela demande toutes sortes d'expériences. En fait, la Bible nous dit que c'est dangereux de bien connaître la Bible et de ne pas la mettre en pratique. Si j'étudie ce livre et me contente d'acquérir des connaissances, et que je ne reflète pas ces connaissances dans ma vie, dans mon caractère, mes attitudes et dans mes actions, c'est dangereux à deux points de vue. D'abord, la connaissance génère de l'orgueil. La Bible dit que la connaissance gonfle, mais l'amour édifie. Les chrétiens les moins adultes que je connaisse sont des véritables réservoirs remplis de connaissances bibliques. Ils ont mémorisé des versets et connaissent les histoires de la Bible, mais ils sont orgueilleux, ils portent des jugements, ils ont l'esprit critique et ils n'agissent pas du tout comme Jésus. Il faut plus que des connaissances. En fait, la Bible dit que Jésus parlait aux pharisiens un jour et il leur a dit « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu ». Ça, c'est quelque chose de surprenant car pour être pharisien, il fallait mémoriser les 5 premiers livres de la Bible. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire lorsqu'il a dit « Vous ne connaissez pas les Écritures » Il voulait dire « Vous ne les avez pas mises en pratique dans votre vie. » La connaissance sans action mène à l'orgueil. L'autre danger, c'est que la connaissance augmente votre responsabilité. Plus la connaissance est grande, plus le jugement est sévère. La Bible dit « Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, pêche. » Donc en fait, si j'étudie ce livre et que je ne le mets pas en pratique dans ma vie, alors je dois m'attendre à être jugé plus sévèrement. C'est le danger de la connaissance spirituelle. Il faut plus que des connaissances, il faut de l'expérience. La 5e fausse idée concernant la croissance spirituelle, c'est de croire que c'est une chose personnelle et privée, et seulement quelque chose entre vous et Dieu et personne d'autre. Eh bien, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne que les chrétiens ont besoin des autres pour grandir. Que vous ne pouvez pas grandir sainement et de façon équilibrée par vous-même. Vous avez besoin du corps de Christ, vous avez besoin d'autres croyants. Des chrétiens isolés ou bien des chrétiens indépendants, ça n'existe vraiment pas. Nous grandissons dans la communion avec les autres. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, « Veillons les uns sur les autres pour nous, d'encourager à la charité et à ce que sont les bonnes œuvres. » N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est l'habitude de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Notez que c'est la première personne du pluriel. Pas seulement moi, moi-même au singulier, mais nous, et c'est nous, ensemble, que nous grandissons. En d'autres termes, Dieu désire que nous grandissons dans une famille. 1 Jean chapitre 1, verset 7 nous dit qu'une des preuves de maturité spirituelle, c'est d'être en communion avec d'autres croyants. C'est pourquoi vous ne pouvez pas atteindre une maturité spirituelle juste en étudiant la Bible par vous-même. Vous devez être en relation avec d'autres chrétiens. 1 Jean 4, verset 20 dit, « Si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et Jésus dit que si un frère a quelque chose contre moi, ma louange ne vaut rien. Il dit que nous devons nous réconcilier avec notre frère avant de revenir au service. Donc la croissance spirituelle n'est pas seulement personnelle, elle implique d'autres croyants dans la famille de Dieu. Et enfin, la sixième fausse idée, c'est de croire que tout ce qu'on a besoin pour grandir spirituellement, c'est l'étude de la Bible. Et c'est en fait ce dont je viens de parler. Mais ça ne suffit pas. Vous avez besoin d'accomplir le plan de Dieu dans votre vie pour votre croissance. Il y a cinq objectifs pour l'Église: la louange, la communion fraternelle, l'enseignement, le service et l'évangélisation. Pour grandir en tant que chrétien, l'étude de la Bible ne suffit pas. Vous avez besoin d'expérience dans la louange. Vous avez besoin d'expérience dans la communion avec d'autres croyants. Vous avez besoin d'expérience dans l'étude de la Bible. Mais vous avez aussi besoin d'expérience en mettant en pratique dans votre ministère ce que vous avez appris, en mettant en pratique ce que vous avez appris en partageant votre foi et en évangélisant des non-croyants. En vérité, ce dont certains chrétiens n'ont pas besoin, c'est d'une autre étude biblique. Ce qu'ils doivent faire, c'est mettre en pratique ce qu'ils savent déjà. Pour résumer, si vous voulez vraiment atteindre une maturité spirituelle, vous devez comprendre que la croissance spirituelle commence par votre engagement. C'est un processus qui ne se produit pas du jour au lendemain et où il faut développer des habitudes. On le mesure par rapport aux cinq objectifs nécessaires à la croissance. Et ce processus est stimulé par les relations fraternelles que vous trouverez dans l'Église. Maintenant, en se basant sur ces éléments, je voudrais partager avec vous comment vous pouvez aider les gens à grandir spirituellement. Et je vais partager avec vous trois principes. Premièrement, si vous voulez aider les autres à atteindre une maturité spirituelle, vous devez les aider à prendre un engagement spirituel, parce que toute croissance commence par un engagement. Rien ne se passe à moins que quelqu'un décide de grandir, car la croissance est volontaire. Enseignons aux gens à prendre des engagements spirituels. Peut-être la chose la plus importante que vous fassiez en tant que responsable spirituel, parce que nous devenons ce à quoi nous sommes engagés. Même sans vous connaître, si vous me disiez les engagements que vous avez, je pourrais vous dire ce que vous allez devenir dans 15 ou 20 ans. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour cela. Seulement, en connaissant vos engagements, dites-moi comment vous passez votre temps, ce que vous faites de votre argent, comment vous dépensez votre énergie, et je pourrais vous dire ce que vous allez devenir dans 20 ans. Nous devenons le résultat de notre engagement. C'est pourquoi vous devez choisir vos engagements avec soin, parce qu'ils déterminent votre destinée, pas seulement votre bonheur ici sur terre, mais votre destinée éternelle. Et tout comme nos engagements spirituels déterminent qui nous sommes, chaque Église est aussi reconnue par ses engagements. Les engagements que prennent les membres d'une Église déterminent ce que l'Église va devenir. C'est pourquoi je vous conseille de devenir une Église guidée par ses objectifs, où vous vous engagez à atteindre les cinq objectifs de l'Église du Nouveau Testament. Maintenant, comment demander aux gens de prendre un engagement spirituel quand vous leur parlez? Je vais vous donner les idées. D'abord, demandez-leur avec confiance. La Bible dit que nous serons jugés selon la mesure de notre foi. Et lorsque vous voulez demander à quelqu'un de s'engager spirituellement, de grandir dans le Seigneur, demandez-lui en ayant confiance qu'il prendra la bonne décision. Demandez-lui clairement. Expliquez aux gens exactement ce que vous attendez d'eux, ce que vous voulez qu'ils fassent. Expliquez la nature de l'engagement. Et ensuite, expliquez-leur les bénéfices de cet engagement spirituel. Si vous faites cela, vous allez vous apercevoir que c'est beaucoup plus facile d'aider des gens à grandir dans leur engagement envers le Seigneur. Bon, une des choses que j'ai découvert, c'est que plus l'engagement que vous leur demandez est important, plus ils seront nombreux à vous répondre. Parfois, les pasteurs et les responsables d'église ont peur d'offenser leurs paroissiens s'ils leur demandent de prendre des engagements. Mais cela n'offense pas les gens. En fait, ils accepteront de prendre un engagement important si l'objectif visé est important. À Saddleback, nous disons que prendre un engagement envers le plus grand des commandements et la plus grande des missions produira une grande église et produira aussi des chrétiens remarquables. Les gens répondent à une vision quand on leur demande de prendre un engagement. Si vous voulez un exemple, lisez la Bible. Est-ce que Jésus a lancé des défis pour que les gens prennent des engagements? Tout le temps. Il a dit, je veux que vous abandonniez tout ce que vous avez et que vous me suiviez. Ça, c'est un engagement important. Je veux que vous renonciez à vous-même, que vous portiez votre croix et me suiviez. C'est un engagement important. Je veux que vous m'aimiez tellement que l'amour pour les autres doit ressembler à de la haine. Je dois avoir la première place. Je dois rechercher d'abord le royaume de Dieu. Ce sont des grands engagements. Et plus l'engagement que vous leur demandez est important, plus les gens seront nombreux à vous répondre. Maintenant, je voudrais aussi vous dire que si l'Église ne demande pas aux gens de prendre des engagements, d'autres vont le faire à votre place. Vous allez vous engager à quelque chose, comme tout le monde. Et si vous ne vous engagez pas à la croissance spirituelle, à la parole de Dieu et à l'Église, vous allez passer votre temps à faire autre chose. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de personnes qui ont donné une priorité principale à des causes secondaires, et ces causes les ont trahies. Les gens veulent s'engager à faire quelque chose qui leur donne de l'importance. Ils veulent être engagés au sein d'une grande cause. C'est ainsi que Dieu nous a conçus. Et voilà ce que vous devez faire. On arrive aux grands engagements en demandant aux gens de prendre des petits engagements et d'avancer pas à pas vers la croissance spirituelle. Vous divisez les grands engagements en plusieurs petites étapes, et les gens y parviennent pas à pas, et vous les aidez à grandir graduellement dans leurs engagements. Il faut enseigner aux gens comment ils peuvent grandir dans leur engagement, autrement vous ne les verrez pas tellement grandir spirituellement, parce que tout engagement est le début de la croissance spirituelle. La deuxième chose que vous devez faire pour aider les gens à grandir, c'est de les aider à développer des habitudes de croissance spirituelle. Des habitudes de croissance spirituelle, la façon la plus concrète d'aider les gens à atteindre une maturité spirituelle, c'est de les aider à développer des habitudes qui sont essentielles à la vie chrétienne. Être un disciple, cela implique des habitudes, être discipliné. Mais ces habitudes doivent être plaisantes et non subies. Pourquoi les habitudes sont-elles si importantes? Parce qu'elles sont l'essence du caractère. Le caractère, et c'est ce que Dieu veut qu'on développe, être semblable à Jésus, vient en développant de bonnes habitudes. Par exemple, je ne peux pas dire que je suis honnête, que je possède la qualité d'être honnête, à moins que ce soit mon habitude. J'ai l'habitude d'être honnête tout le temps. Si je ne suis honnête que la moitié du temps, je n'ai pas d'intégrité ou d'honnêteté. Si je dis « je ne suis fidèle que la moitié du temps », ce n'est pas de la fidélité. La fidélité, c'est lorsque nous avons l'habitude d'être fidèles. Dieu désire que je développe l'habitude d'aimer, l'habitude d'être fidèle, l'habitude d'être joyeux. Dieu désire que je développe l'habitude d'être loyal, l'habitude d'être sensible aux besoins des autres personnes. Ainsi, lorsque vous aidez les gens à développer des bonnes habitudes solides, vous les aidez à grandir vers une maturité spirituelle. Mais quelles sont les habitudes les plus importantes? Quelles sont celles que nous devons posséder absolument? Et je crois qu'il y en a. Je crois qu'il existe trois habitudes qui sont essentielles à la vie chrétienne. Et que si vous enseignez à vos fidèles comment développer ces habitudes, ils vont grandir vers une maturité spirituelle, peu importe s'ils restent dans votre église ou s'ils déménagent dans une autre, un autre quartier ou une ville ou village et deviennent membres d'une autre église. Les trois domaines les plus importants dans votre vie sont votre temps, votre argent et vos relations. Dites-moi comment vous passez votre temps. Dites-moi comment vous dépensez votre argent et dites-moi comment vous passez votre temps avec les autres et je vous dirai ce qui est le plus important pour vous. Parce que peu importe ce que vous dites et ce qui est important, c'est la manière dont vous disposez des moyens que Dieu vous a donnés qui montre ce qui est le plus important dans votre vie. Donc nous croyons qu'il existe trois habitudes essentielles à la croissance. Passer un temps quotidien avec Dieu, c'est la première habitude. Donner la dîme ou l'offrande à Dieu chaque semaine, c'est la deuxième habitude. Et un petit groupe ou une équipe engagée envers Dieu, c'est la troisième habitude. Je vais expliquer ces habitudes. Premièrement, vous devez passer du temps avec la parole de Dieu chaque jour, où vous lisez sa parole et priez. Vous lisez la parole de Dieu et laissez Dieu vous parler, puis vous priez et vous parlez à Dieu. En faisant cela, vous développez une relation. Dieu désire que vous ayez une relation avec son Fils Jésus-Christ. Vous avez été créé par Dieu et pour Dieu, et c'est seulement lorsque vous comprenez cela que votre vie aura un sens. Vous avez été créé pour être en relation avec Dieu, et c'est pourquoi Dieu vous a donné un esprit. C'est ce qui vous rend différent de tous les animaux. Vous ne voyez jamais une vache prier, vous ne voyez jamais un chien rendre grâce avant de manger sa nourriture. Mais les êtres humains ont la capacité de communiquer avec Dieu, parce que Dieu nous a donné un esprit. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et donc, nous avons été créés pour être en communion avec Dieu. Si je ne passe pas de temps à connaître Dieu au travers de sa parole et par la prière, je n'accomplis pas le plan de Dieu pour ma vie lorsqu'il m'a créé. Je rejette aussi ce que Jésus a rendu possible par sa mort sur la croix. Jésus est mort sur la croix pour que la communion avec Dieu puisse être restaurée. Mon péché a brisé cette communion, a brisé ce pont entre moi et Dieu, et un mur a été construit à sa place. Au lieu de cela, Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix et a reconstruit ce pont afin que je puisse être à nouveau en communion avec Dieu. Donc nous devons prendre cela au sérieux, passer du temps avec Dieu chaque jour pour pouvoir développer une relation. Vous ne pouvez pas développer une relation avec quelqu'un si vous ne passez pas de temps avec eux. Donc vous devez passer du temps avec Dieu chaque jour. La deuxième habitude que vous devez développer, c'est de donner votre dîme ou votre offrande à Dieu chaque semaine. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 16, chapitre 16, verset 2, il est dit, le premier jour de chaque semaine, vous devez apporter votre offrande à Dieu. Et pourquoi cela? Quel est le premier jour de la semaine? C'est le dimanche, le jour où on loue le Seigneur. Et donner est un acte de louange. Et quand je donne la première partie de mon argent, le premier jour de chaque semaine, à Dieu, et que je développe l'habitude de faire cela, c'est comme si je dis à Dieu, Dieu, tu as la première place dans ma vie. Jésus-Christ, je cherche d'abord ton royaume, et je le montre par mon temps et par mon argent. Je te consacre le premier jour de la semaine, le dimanche, pour te louer, et je te donne la première partie de mon argent, la dîme qui te revient. La troisième habitude qui aide les chrétiens à grandir, c'est un petit groupe ou une équipe engagée envers Dieu. Comme on vient juste de le voir, la communion fraternelle est nécessaire pour la maturité. En aidant les gens à développer ces habitudes, vos fidèles vont grandir et atteindre cette maturité. Puis une troisième suggestion que j'aimerais faire pour aider les gens à grandir spirituellement, c'est utiliser les cinq pierres de construction de la croissance. Les cinq pierres de construction de la croissance, quelles sont-elles? Je vais vous expliquer. Si vous deviez construire un mur, vous placeriez les pierres les unes au-dessus des autres, ou les briques les unes au-dessus des autres, et plus vous construisez, plus le mur s'élève de plus en plus haut. Dans la vie chrétienne, il y a cinq pierres de construction qui aident les gens à grandir vers une maturité spirituelle. La première pierre de construction, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu, c'est savoir ce que contient ce livre, où j'étudie les personnages de la Bible, les histoires de la Bible, les principes, les vérités et les doctrines de la Bible. C'est la fondation pour toute croissance spirituelle. La Bible nous dit dans Osée 4:6, il est dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Vous ne pourrez jamais devenir un chrétien affermi sans connaissance. Vous devez connaître la parole de Dieu. Mais ce n'est pas vraiment tout. Vous devez construire sur la connaissance de la parole de Dieu. La deuxième pierre de construction, c'est ce que j'appelle la perspective. Qu'est-ce que la perspective? La perspective, c'est de voir la vie avec les yeux de Dieu. Voir la vie avec les yeux de Dieu. La perspective, c'est de comprendre pourquoi Dieu fait ce qu'il fait. Et pas seulement ce qu'il fait, mais pourquoi il le fait. Et la connaissance, c'est de savoir ce que Dieu fait dans la Bible. La perspective, c'est de savoir pourquoi il l'a fait. Dans le psaume 103, verset 7, il est dit, « Les enfants d'Israël connaissaient les œuvres de Dieu, mais Moïse connaissait les voies de Dieu. » Les Israélites avaient connaissance des exploits de Dieu, ils l'ont vu ouvrir la mer Rouge, ils l'ont vu opérer le miracle de la rivière du Jourdain, mais Moïse savait pourquoi Dieu agit ainsi, et ça c'est de la perspective. La perspective nous fait aimer Dieu davantage. La perspective nous fait résister aux tentations. La perspective nous aide à faire face à nos problèmes, et la perspective nous aide à ne pas faire d'erreurs. Et donc, lorsque nous comprenons pourquoi Dieu fait ce qu'il fait, pourquoi Dieu permet qu'il y ait des problèmes dans le monde, pourquoi Dieu permet au diable de nous tenter, pourquoi Dieu permet le mal dans la vie de bonnes personnes, pourquoi Dieu a permis que Jésus-Christ meure sur la croix pour nos péchés? Lorsque vous comprenez cela, les pourquoi, les questions de la vie, vous comprenez ce qu'est la perspective. Le troisième niveau, ou la troisième pierre de construction, c'est la conviction. La conviction sont les valeurs, les engagements et les motivations qui permettent que nous fassions de bons choix. Si j'ai une opinion sur un certain sujet, je peux en discuter. Mais si j'ai une conviction, alors j'y donnerai ma vie. Et la conviction vient après la perspective. D'abord, vous devez bien connaître la parole de Dieu. Deuxièmement, lorsque vous étudiez la parole de Dieu, vous apprenez pourquoi Dieu agit comme il agit. Vous apprenez le pourquoi, la perspective de la vie. Lorsque vous savez pourquoi Dieu agit ainsi dans votre vie, vous commencez à développer des convictions. Les convictions vous construisent, affermissent votre foi chrétienne. Si vous n'avez aucune conviction dans votre vie, vous allez probablement succomber à tout. J'ai étudié l'histoire autour du monde et j'ai découvert que les personnes qui ont eu le plus grand impact dans le monde, ce ne sont pas les plus intelligentes, ni les gens les plus riches, ni les gens les plus éduqués. Mais les personnes qui ont eu le plus grand impact dans le monde sont celles qui ont eu les convictions les plus profondes. C'est ça le pouvoir de conviction. Il y a bien des années, Lénine, le dirigeant communiste, a dit « Donnez-moi 100 hommes de conviction et je changerai le monde ». Et bien sûr, il a presque réussi. À une certaine époque, presque 2/3 du monde suivaient une philosophie communiste à cause de 100 personnes de conviction. Mais le meilleur exemple de conviction, c'est Jésus-Christ. Étudiez la Bible et recherchez combien de fois Jésus a dit « Je dois agir ainsi ». Il avait de la conviction « Je dois agir ainsi ». Une fois que vous bâtissez sur la connaissance de la parole, puis sur la perspective, savoir pourquoi Dieu fait ce qu'il fait, et que vous développez des convictions, j'ai la conviction que c'est la parole de Dieu, la Bible. J'ai la conviction que Dieu ne m'abandonnera ou ne me délaissera jamais. J'ai la conviction que l'Église représente la famille de Dieu. Ensuite, vous construisez sur la 4e pierre de construction qui est l'habileté. L'habileté est le savoir-faire de la vie chrétienne. Et nous avons besoin d'enseigner à nos fidèles comment partager leur foi, comment résister aux tentations, comment prier et recevoir des réponses, comment étudier la Bible, comment résoudre les conflits. Dieu désire que nous soyons expérimentés dans sa parole. La Bible dit, dans Timothée, il est dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui dispense droitement la parole de la vérité. » Dans une des premières sessions de cette conférence, nous avons parlé d'avoir une hache bien aiguisée. Et la Bible dit dans Ecclésiaste 10:10 que si notre hache est bien aiguisée, nous consommons moins d'énergie pour couper du bois. Et l'habileté est l'instrument du succès. Donc il est important que nous apprenions aux gens le savoir-faire de la vie chrétienne. Et enfin, il y a aussi le caractère. Le caractère est la dernière pierre de construction. Lorsque vous connaissez la parole de Dieu et que vous comprenez le comment et le pourquoi les œuvres de Dieu, et que vous développez des convictions par rapport à votre vie et à Dieu et au diable et au péché et à la justice, et ensuite vous développez des habiletés dans votre vie chrétienne, alors vous développez votre caractère. Et c'est l'objectif final de la vie chrétienne. Devenir semblable à Christ dans notre attitude et dans nos actions. Devenir semblable à Christ dans notre caractère. Mettre la parole de Dieu en pratique, apprendre à voir les pensées de Christ, à parler comme Christ, à partager comme Christ, à servir comme Christ et agir comme Christ. Si vous élevez le niveau d'engagement spirituel des gens de votre Église, et si vous les aidez à développer des habitudes spirituelles, et si vous baptisez sur les 5 pierres de construction de la croissance, vous développerez des croyants spirituellement adultes qui grandiront dans leur caractère et dans leur ressemblance à Christ et qui rendront gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.